VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 24 novembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seroudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Zimbabwe, investiture aujourd'hui d'Emmerson Mnangagwa, le successeur de Robert Mugabe.
Au Cameroun, perturbation de la session parlementaire hier par les députés du SDF, formation anglophone et principal parti d'opposition.
Au Tchad, l'ex-maire de Moundou, Laoken Médard, reste en prison malgré la décision du juge de le remettre en liberté.
À Riyad, accord de l'opposition syrienne sur l'envoi d'une délégation unifiée aux négociations du 28 novembre à Genève.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa assume officiellement le pouvoir aujourd'hui pour remplacer le président Robert Mugabe, forcé à la démission. La cérémonie d'investiture se déroulera au National Sports Stadium de la capitale, Harare. Des détails avec John Lyndon.
La reconstitution de l'économie nationale, sortie exsangue des 37 ans du règne de Robert Mugabe, constitue sa priorité. Dans son message hier, il a imploré tous les Zimbabwéens de rester patients et pacifiques et surtout de s'abstenir de toute vengeance. La ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays, a appelé la population à venir être témoin de l'histoire en marche d'une nouvelle ère sous la direction d'Emmerson Mnangagwa. Mais la tâche s'avère difficile. Mnangagwa hérite d'une économie en lambeaux, d'un parti divisé et d'une population qui a de très fortes attentes. Conscient de cette mission, il a promis de relancer l'économie et de créer des emplois. Le taux de chômage est estimé à 90%. Les Zimbabwéens vivent de petits boulots dans l'économie informelle. D'autres ont immigré souvent chez le géant sud-africain voisin. La chute de Robert Mugabe a créé beaucoup d'espoir et suscite toutefois quelques inquiétudes. Pilier de l'appareil sécuritaire zimbabwéen depuis 4 décennies, M. Mnangagwa s'est signalé comme le fidèle exécuteur des basses besognes de l'ex-président.
Au Cameroun, la crise anglophone s'invite à l'Assemblée. Les députés du Social Democratic Front, formation anglophone et principal parti d'opposition, ont perturbé hier la session parlementaire. Ils exigent l'ouverture d'un débat sur la crise anglophone. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Paul Biya, le pays va mal. Nous voulons le changement, ont chanté les députés du Social Democratic Front, modifiant les propos d'un refrain généralement déclamé à la gloire de M. Biya, selon le témoignage d'un des opposants. Le pays va bien, le SDF va mal, a répondu le président de l'Assemblée, Kavaï Yeguié Gibril, qui a par la suite suspendu les travaux. Le SDF avait posé l'inscription de la crise anglophone à l'ordre du jour comme préalable à l'adoption de certains projets de loi, d'après Jean-Michel Ninche, député SDF. Il a affirmé que leur action fait suite à plusieurs démarches sans succès auprès des responsables du Sénat et de l'Assemblée, ajoutant qu'ils ont adressé plusieurs correspondances au chef de l'État. Les députés du SDF avaient déjà boycotté l'ouverture des travaux de l'actuelle session consacrée à l'adoption du budget 2018. La sécurité dans les zones anglophones en proie à une grave crise sociopolitique s'est dégradée. 4 militaires y ont été tués en moins d'une semaine dans des attaques attribuées par le gouvernement aux séparatistes anglophones.
Au Tchad, Laoken Médard reste en prison. Hier, on avait annoncé la libération de l'ancien maire de Moundou, ex-candidat à la présidence. Mais le procureur de Moundou a refusé de signer l'autorisation de sortie du dirigeant tchadien. Précision de Dili Diko.
L'opposant Laoken Médard, arrivé troisième à la présidentielle d'avril 2016, devait être libéré jeudi sur décision du juge qui avait ordonné sa mise en liberté pour détention abusive. Mais selon une source judiciaire, le procureur a déclaré qu'il faisait appel de la décision du juge. L'ancien maire de Moundou, la deuxième ville du Tchad située au sud du pays, avait été arrêté en mi-juillet pour malversation financière. Il était soupçonné d'avoir détourné 27 millions de francs CFA à la suite d'un contrôle administratif de routine réalisé en juin. Un audit avait ensuite été demandé fin septembre par le juge d'instruction qui avait conclu que M. Médard n'avait pas détourné un seul centime dans le cadre de ses fonctions de maire. Jeudi, le chef d'accusation contre M. Médard a finalement été requalifié en abus d'autorité par la justice tchadienne.
Nous reviendrons sur cette affaire du maire de Mundu ainsi que sur cette affaire de l'Aoken du Cameroun, des anglophones du SDF dans la seconde partie de cette édition.
Veillée de prière hier soir au Vatican pour les victimes au Soudan du Sud et en RDC. À cette occasion, le pape François a lancé un appel contre les massacres de femmes et d'enfants. Les précisions d'Éric Manirakidza.
Dans son homélie dans la basilique Saint-Pierre, le souverain pontife a voulu jeter des semences de paix dans la terre du Soudan du Sud et de la RDC, ainsi qu'en toute terre blessée par la guerre. Le pape François a notamment évoqué les murs de l'inimitié existant dans ces deux pays. Il a déploré des conflits qui volent leur enfance et leur vie. Quelle hypocrisie, dit-il, de nier les massacres de femmes et d'enfants, indiquant que la guerre montre son visage le plus horrible. Des chants festifs en langue swahili d'un petit chœur africain ont accompagné la messe et la procession d'entrée de fidèles, portant beaucoup de grandes photographies d'enfants du Soudan du Sud et de la RDC déposées sur des chevalets. Le pape a renoncé à se rendre au Soudan du Sud en mai dernier. Il voulait aussi aller au Congo-Brazzaville et coupler son déplacement avec la RDC. Mais il a changé d'avis à cause du maintien au pouvoir de Joseph Kabila.
Au Nigeria, 7 hommes ont été tués dans une ferme de l'État d'Adamawa dans la nuit de mercredi à jeudi, vraisemblablement par Boko Haram. Quelques jours auparavant, au moins 50 personnes avaient été tuées dans un attentat attribué au groupe djihadiste, selon l'AFP. L'État d'Adamawa avait connu un retour progressif au calme depuis des mois, en comparaison avec l'État voisin du Borno, épicentre du conflit qui n'a connu aucun répit.
En Ouganda, les 8 directeurs et rédacteurs en chef d'un groupe de tabloïds ougandais, et dont nous vous avions annoncé hier l'arrestation, ont été inculpés de trahison. On leur reproche la publication d'un article sur l'implication présumée du président ougandais Yoweri Museveni dans un complot pour renverser son homologue rwandais Paul Kagame. Il leur est également reproché d'avoir perturbé la paix du président, selon un de leurs avocats cité par l'AFP. L'organisation Reporters sans frontières a dénoncé une réaction absolument disproportionnée de la part des autorités et a appelé à la libération immédiate des journalistes arrêtés.
En Libye, le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale a déclaré que les conclusions de son enquête sur des cas d'esclavage en Libye ne sauront tarder et que les responsables seront traités sans indulgence. C'est ce qu'a promis Al-Aref Al-Khoja dans une conférence de presse à Tripoli. L'État libyen ne tolérera pas que les victimes de l'immigration soient traitées autrement que dans le respect de leur humanité, a affirmé le ministre libyen en présence de plusieurs diplomates africains réunis dans le principal centre de rétention de migrants dans la capitale libyenne. La semaine dernière, un documentaire choc de la chaîne de télévision américaine CNN a exposé l'existence de ventes d'esclaves près de Tripoli, indignant le monde entier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'opposition syrienne est parvenue aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite, à trouver un terrain d'entente pour envoyer une délégation unifiée pour participer aux négociations prévues à Genève le 28 novembre avec le régime du président Bachar al-Assad sous l'égide de l'ONU. Quelques 140 représentants de l'opposition participent à cette rencontre de Riyad. Celle-ci intervient alors que la Russie, alliée de Bachar al-Assad, espère réunir sur son sol un congrès entre des représentants du gouvernement et de l'opposition syrienne sous les auspices des puissances qui les soutiennent. Selon le président russe Vladimir Poutine, un tel rassemblement des forces politiques syriennes doit servir de stimulant au processus de Genève.
L'espoir de retrouver des survivants du sous-marin argentin San Juan s'estompe après l'annonce que ce sous-marin a été victime d'une explosion. mais les recherches pour le localiser se poursuivaient au milieu du désespoir des familles de ces 44 marins. Lors d'une conférence de presse hier à Buenos Aires, le porte-parole de la marine argentine a annoncé que les analyses réalisées en Autriche de l'anomalie hydroacoustique enregistrée avaient conclu à un événement anormal, court, violent, pas d'origine nucléaire, correspondant à une explosion.
La Colombie célèbre aujourd'hui le premier anniversaire de l'accord historique entre Bogota et la puissante guérilla des FARC, engageant le pays sur le chemin de la paix pour mettre fin à plus d'un demi-siècle d'une guerre fratricide, la plus ancienne du continent américain. L'anniversaire est marqué vendredi à Bogota par une cérémonie au Théâtre Colón, organisée cependant par des associations et qui n'a donc rien d'officiel. Elle doit malgré tout être ouverte par le président Juan Manuel Santos et Rodrigo Londoño, alias Timochenko, chef de l'ancienne rébellion, aujourd'hui reconverti en parti politique. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco et Kiabadou.
Les États africains vont devoir rembourser les emprunts internationaux contractés lors de la phase de croissance économique au début de la décennie. Les économies les plus exposées pourraient connaître des crises de la dette au cours des prochaines années, prévient Moody's dans un communiqué le 21 novembre. Dans le viseur, le Gabon, le Ghana et la Zambie et dans une moindre mesure, le Kenya et l'Angola. Selon l'agence France Presse, le milliardaire nigérian Aliko Dangote a affirmé son ambition de figurer parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de ciment d'ici 2020. Il a inauguré une usine jeudi dans le centre du Congo. Il a déclaré que les travaux avaient duré près de 4 ans pour la somme de 300 millions de dollars. C'est la plus grande cimenterie d'Afrique centrale. Elle pourrait créer 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Selon Seneweb, avec un contrat de près de 27 millions d'euros, la Senelec, société d'électricité du Sénégal, a retenu le groupe français Vinci Énergie pour la réalisation de 8 centrales photovoltaïques sur 4 grandes régions du Sénégal. Selon Abidjan.net, le secteur des télécommunications est en pleine expansion en Côte d'Ivoire. Le groupe de télécommunications Orange se prépare pour son installation d'ici 24 mois dans son nouveau siège social d'Abidjan. La pose de la première pierre a été effectuée mercredi par le Premier ministre Koulibaly pour un coût total d'investissement de 28 milliards de francs CFA.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Villarreal et Nice se sont qualifiés hier pour les 16e de finale en Europa League.
Les Espagnols de Villarreal se sont qualifiés au Kazakhstan grâce à leur victoire 2-3 devant FC Astana. Ça passe aussi pour Nice avec un retour gagnant de Mario Balotelli, auteur d'un doublé, score final 3-1 pour les Niçois face à Zulte. L'Olympique de Marseille a frôlé de près la défaite en Turquie, égalisant à la 93e minute, un but partout devant Konyaspor. 3-0 pour Red Bull Salzbourg face à Victoria Guimaraes. Déjà qualifié, Arsenal s'est incliné à Cologne 1-0.
Hierro redevient directeur sportif en Espagne.
Tout à fait Idrissa, l'ex-défenseur international Fernando Hierro a été nommé directeur sportif de la Fédération espagnole de football. Hierro, 49 ans, avait déjà occupé cette fonction entre 2007 et 2011. Sur cette période, la sélection espagnole a remporté l'Euro 2008 et celui de 2012, ainsi que la Coupe du Monde 2010. L'international aux 89 sélections a notamment gagné au cours de sa carrière de joueur 3 Ligues des Champions et 5 Championnats d'Espagne avec le Real Madrid de 1989 à 2003.
Le footballeur Robinho, condamné à 9 ans de prison pour viol.
L'attaquant international brésilien, ancien joueur de l'AC Milan et du Real Madrid, a été condamné hier en Italie à 9 ans de prison pour viol. Un tribunal de la ville lombarde l'a reconnu coupable de viol en réunion sur une jeune femme de 22 ans de nationalité albanaise. Les faits remontent à janvier 2013, à l'époque où Robinho jouait au Milan AC. 5 autres personnes étaient poursuivies, accusées des mêmes faits. Robinho ne reconnaît pas les faits. Aujourd'hui, âgé de 33 ans, il évolue au Brésil à l'Atlético Mineiro.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa investit aujourd'hui pour succéder à Robert Mugabe à la tête d'un pays ruiné. Pour certains observateurs, son arrivée au pouvoir doit aussi susciter des inquiétudes quant à l'avenir des droits de l'homme. Eric Manirakiza a joint en Afrique du Sud le professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA, André Thomashausen.
Il n'est certainement pas un champion des droits de l'homme. C'est un homme dur, un homme de la guerre de libération, un confiant de la Chine, un représentant des intérêts chinois même. Pour lui, les droits de l'homme ont une fonctionnalité dans l'État, dans le sens que c'est nécessaire de construire une inclusion de la population à travers les élections, à travers la représentativité du gouvernement. Mais il n'acceptera pas une obstruction de sa politique sur la base des droits de l'homme classiques européens. Il était un des architectes de la répression de l'opposition dans le Matabele Land dans l'année 2000, où il y a eu vraiment des centaines de milliers de victimes.
Un homme inflexible, c'est pour cette raison qu'il est surnommé le crocodile.
C'était la stratégie qu'il a poursuivie dans sa guerre contre la répression du gouvernement de la Rhodésie pendant la guerre de libération, c'est-à-dire de prétendre d'être endormi tel qu'un crocodile et d'attaquer toujours lorsqu'il se présente une opportunité pour le faire. Mais oui, c'est aussi quelqu'un qui a joué son rôle dans le Zimbabwe moderne comme un stabilisateur, un architecte du pouvoir, un ingénieur du maintien du pouvoir. Ça ne résulte pas dans l'inflexibilité, mais il y aura certainement des principes nationalistes et patriotes et pas nécessairement des grandes amitiés envers l'ancien pouvoir colonial, l'Angleterre ou des autres puissances européennes.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'organiser des élections crédible et transparente et accepter de les perdre?
Je pense que s'il sera convaincu de la nécessité d'avoir des élections crédibles pour pouvoir refinancer l'économie du Zimbabwe, pour pouvoir lancer la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures, alors là, oui, il le fera. Il cherchera l'appui, il cherchera la légitimité, surtout dans des alliances tactiques, peut-être avec des organisations civiques américaines ou européennes, pour assurer que le pays Zimbabwe pourrait retrouver son rating, sa fiabilité pour les banques internationales, pour le Fonds monétaire, pour la Banque mondiale, parce que lui, comme tacticien, un architecte du pouvoir, il sait très très bien que sans des injections de capital importantes, le Zimbabwe ne trouvera pas une stabilité sociale ni un avenir qui satisferait les aspirations de la population. Mais une majorité au Zimbabwe ces jours-ci cherche une stabilité, il cherche un renouvellement et surtout une reconstruction de l'économie du pays qui est en faillite.
André Thomashausen, professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA en Afrique du Sud. Retour sur le blocage hier à l'Assemblée nationale du Cameroun. Les quelques 18 députés du SDF, Social Democratic Front, formation anglophone et principal parti d'opposition, ont perturbé hier la session parlementaire. Ils exigent l'ouverture d'un débat sur la crise anglophone. Sur le sens de leur mouvement, joint par Bagassi Koura à Yaoundé, Joshua aussi, premier vice-président et député SDF.
Il y a une crise nationale de gouvernance que le gouvernement a appelée crise anglophone. Ils ont d'abord commencé à l'appeler problème anglophone et ils se sont réalisés pour l'appeler crise anglophone. Il faut au moins 4 sessions que nous demandons que le Parlement, disons le législateur camerounais, puisse regarder ce problème. Et nous pensons qu'un pays ne peut pas être en crise pendant 2 ans et nous ne contrôlons pas l'action du gouvernement pour qu'ils viennent nous dire ce qu'ils ont fait pour essayer de résoudre cette crise et pourquoi ils n'arrivent pas.
À votre avis, vous êtes ignoré?
Écoutez, ce n'est pas nous qui sommes ignorés, mais c'est le gouvernement qui essaie d'ignorer un problème qui paralyse tout le pays. On a 20% du pays qui est en état d'urgence, on a militarisé toute la zone, il y a près de 4000 personnes en prison sans procès, ni charge. Les gens tuent d'autres depuis des hélicoptères, etc., etc. Donc, il est quand même important qu'on essaye de trouver une solution à ce problème. C'est un problème politique dont la solution ne peut que venir du législateur. Et c'est pour ça que nous disons que ça doit venir. Et au fait, c'est parce que le président de l'Assemblée nationale ignore, et nous savons qu'il ignore cela sous instruction de l'exécutif, ignore notre demande, que nous avons dit que les travaux ne peuvent pas commencer. On ne peut pas continuer comme s'il y avait pas de problème au Cameroun.
Les travaux ont été suspendus. Hein. Est-ce à dire que lorsque ils vont reprendre, vous allez vous comporter de la même façon, exiger les mêmes conditions?
Nous avons dit qu'il n'y aura pas de travaux tant que ce point ne sera pas mis à l'ordre du jour. On ne peut pas continuer à prétendre qu'il n'y a pas de problème au Cameroun alors que des milliers de Camerounais meurent tous les jours. Donc il faut absolument, on ne peut pas laisser ce gouvernement continuellement jouer comme un régime de l'apartheid, comme si le reste des Camerounais ne comptait pour rien. Nous avons dit que s'ils ont peur du président de la République, qu'ils nous disent que c'est lui qui bloque. Si ce n'est pas lui qui bloque, ils ont l'obligation d'apporter ça sur la table du Parlement. Si c'est lui qui bloque, nous allons prendre d'autres actions pour que ça arrive. Mais il faut absolument qu'il y ait un débat politique sur cette crise et que le gouvernement vienne répondre de ses actes devant le Parlement. Et c'est ce que nous demandons. Et nous ne savons même pas pourquoi ils ont peur, vu la majorité obèse qui possède le Parlement.
C'était de Yaoundé Joshua aussi, premier vice-président et député SDF.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, arrêté le 13 juillet dernier et détenu à la maison d'arrêt de Moundou pour détournement et usage présumé de biens publics, l'opposant Laoken Corayo Médar, l'ex-maire de Moundou et ses 2 co-accusés ont été libérés par la chambre correctionnelle en matière de flagrant délit pour non-respect de la procédure. Mais le procureur de la République refuse de signer l'ordonnance de leur remise en liberté. André Kodmajingar nous en dit plus.
C'est une véritable bataille juridique entre les praticiens du droit, notamment le tribunal correctionnel siégeant en matière de flagrant délit et le parquet de Moundou. Pour être en conformité avec l'article 314 du nouveau code de procédure pénale, le tribunal a libéré Laoken Croyou Médard et 2 de ses co-détenus parce qu'ils ont passé 133 jours en prison sans jugement. Mais le procureur de la République, Abdelmoumin Anour, refuse d'exécuter cette décision judiciaire. Colère de Maître Mouandil Madi Boniface, l'un des avocats de la défense.
Le nouveau code de procédure pénale qui dit que quand le juge doit continuer l'instruction et s'il entend maintenir l'inculpé durant l'instruction, il doit renouveler le mandat de dépôt. Au cas contraire, s'il ne renouvelle pas le mandat de dépôt, la durée de la détention, si ça dépasse 4 mois, on met le prévenu en détention, on le met en liberté d'office. C'est une ignorance totale et il a des raisons personnelles.
Maître Adolphe Bekoutou s'est dit également déçu du comportement du procureur de la République.
Les 3 prévenus étaient d'office mis en liberté. Mais en français facile, ça veut dire que d'office, c'est immédiatement. On n'a pas besoin d'être lexicographe pour savoir est-ce que d'office veut dire ceci ou cela. Non, lui le procureur, il est partie au procès, mais il n'est pas plaignant contre nos clients. On parle de l'État. L'État également a disparu dans cette procédure. Mais en face, nos clients ont affaire à qui? Une décision au fond ordonnant la liberté d'office qui est embrigadée parce que le procureur refuse simplement de signer un ordre de mise en liberté. Moi, je ne sais pas dans quel code ça existe. Nous sommes doublement attristés par cette attitude du procureur.
Réaction dans l'état-major de la CTPD, Convention tchadienne pour la paix et le développement, partie de Laokin Kouraoui-Médard. Pour le délégué régional de la CTPD, Ndjeko Rodé Thomas, l'affaire Laokin est un règlement de compte et non une affaire judiciaire.
Nous sommes scandalisés par le comportement du procureur de la République. Il devait garantir la justice. C'est lui-même qui est en train de contribuer à l'entorse de la justice. L'affaire Laokin est devenue un règlement de compte politique parce que là, il y a une main qui est derrière tout ça. On l'a emprisonné sans raison. Il est question qu'il sorte du prison. Il refuse. Donc, ça veut dire qu'il y a un État dans un État.
Rappelons que Laokin Kouraoui-Médard est l'un des leaders de l'opposition politique qui a mis en difficulté le parti au pouvoir lors des élections présidentielles et locales dans la zone méridionale du pays. Il est arrivé troisième à l'élection présidentielle d'avril 2016, selon la CENI, un organe chargé de l'organisation des élections au Tchad. André Kodmadingar Ndjamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
À Goma, en République démocratique du Congo, cri de détresse des jeunes face au montant exorbitant de la dot demandée par leur future belle-famille. Reportage sur place de notre correspondant Charlie Kasereka.
Pour les non-initiés, la dot est une négociation complexe et très formelle entre les deux familles pour parvenir à une entente sur les prix que les fiancés aura à verser pour pouvoir épouser la fiancée. John Mukengera vient juste de verser sa dot à sa belle famille. Ça n'a pas été chose facile pour lui.
C'est entre 2000 et 2500. La dot est exorbitante aujourd'hui et il n'y a pas de travail. Donc pour moi et pour tous ceux qui sont en train de se préparer pour cette épreuve, c'est tout à fait un combat des titans, c'est grave.
Sans emploi ni activité stable, les jeunes qui aspirent au mariage sont découragés par cette dot coûteuse et décourageante. Fiston cohabite avec sa femme depuis 8 ans. Ils ont eu ensemble 4 enfants. Il n'a pas réussi à réunir la somme de 2000 dollars demandée par sa belle famille.
Non, moi je n'avais pas donné la dot normalement. Cette dernière a véritablement perdu sa valeur. C'est devenu un fonds de commerce où l'on la valorise en argent. Moi, la somme qui m'a été demandée était trop lourde pour moi. Je n'ai pas de travail.
Pour M. Bahati, la trentaine, coiffeur dans un salon de coiffure ici à Goma, lui aussi, père de 4 enfants, qui vit avec sa conjointe dans la même situation, lui pense que les parents qui ont des filles doivent considérer la dot comme un symbole et non une occasion pour s'enrichir.
L'affaire dot est devenue anormale. Moi, je dirais aux parents qui ont encore des filles sous leur toit, la dot, c'est juste un symbole et non pas une revanche pour s'enrichir en énumérant toutes les dépenses.
Madame Agapé, la trentaine, elle a vécu 6 ans avec le père de ses 3 enfants qu'il a ensuite abandonné. Elle pense que si la dot avait été versée à sa famille, son ex-mari n'aurait pas agi ainsi. Aujourd'hui, elle prend seule en charge ses 3 enfants et regrette les choix qu'elle avait faits.
La dot donne la valeur à la femme et pour les hommes, le fait de verser la dot à ta belle famille n'est pas à dire que tu as le droit de maltraiter ton épouse.
Alors, quelle valeur peut-on donner à la dot? Difficile à trancher. D'autres voulaient que la pratique soit uniformisée par une loi, mais avec plus de 400 groupes ethniques comptés en RDC, avec bien sûr différentes coutumes, c'est une mission difficile, pense Justine Massika, cadre de la société civile en RDC.
Normalement, la loi congolaise, elle est vraiment très claire, on réfère à la coutume. Et c'est donc difficile qu'on puisse dire que la loi peut être uniforme. Et je crois que c'est à nous, de la société civile, de sensibiliser tout le monde pour qu'il sache que la dot, c'est vraiment un symbole.
Dans certaines familles, elle a pris des allures d'une facture globale, incluant tous les frais et les dépenses consenties durant l'éducation et la formation de la jeune fille offerte en mariage. Ensuite, d'une grande cérémonie de mariage qui doit suivre les passages en mairie et l'accord de l'état civil. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé ou Votre Avenir, nous parlerons de la chimioprévention du paludisme saisonnier.
Cette méthode consiste à lutter contre le paludisme en administrant des traitements de courte durée, généralement au cours de la saison des pluies.
Pour en savoir davantage, nous recevrons comme invité Thomas Drux,
professeur de santé publique à la Tulane University, ici aux États-Unis.
Nous écouterons aussi le témoignage du docteur Alidou Tinto, promoteur d'une unité de recherche au Burkina Faso.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Patrick Dea. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.